Zandert bemmen, dass das Gesetz über den Konsum von Tabak mehr restriktiv. Gleichzeitig klemmt der Prozentsatz von den Jungen die Firmen. Lützeburg wird mit Heinz van Landewijk bekanntlich eh großen Tabakskonzern. Ein Witte von der haut den Generaldirektor vom Grupp, den Jan van den Nöcker. Mit ihm geht es über die Zukunft von der Tabakindustrie und über die Strategie vom Grupp. Mick Entringer fährt durch das Gespräch.
Les cigarettes ne sont plus à la mode de la législation européenne et luxembourgeoise. Depuis cet été, la directive européenne du tabac limite davantage les consommateurs de cigarettes au pays. Il s'agit surtout d'une politique de prévention des jeunes. Bonjour Jan van den Nöcker.
Bonjour.
Au Luxembourg, 1/5 de la population fume, c'est un chiffre en déclin. Par contre, le nombre des jeunes consommateurs est en croissance. Un chiffre entre 2013 et 2016, le pourcentage des fumeurs entre 18 et 24 ans a connu une hausse de 20 à 26%, selon une enquête de la Fondation contre le cancer. Est-ce qu'en tant que producteur de cigarettes, vous vous réjouissez de cette évolution ?
Alors bien entendu, en tant que producteur, nous ne pouvons pas nous réjouir comme quoi les jeunes commencent à fumer, ou trop jeunes en tout cas. Nous avons toujours clamé haut et fort, et nous continuons à le faire, que fumer est un acte d'adulte. Après, c'est où mettons la barre au niveau de l'adulte. Je crois que l'industrie a été limitée dans toute une série d'actions. Il nous reste pratiquement aucune communication avec le consommateur, sauf dans le point de vente. Et donc, je crois que, voilà, ici, nous déplorons également de voir que ça n'a pas d'effet sur les jeunes.
Est-ce que vous-même, vous fumez ?
Alors, je ne fume plus. J'ai déjà eu quelques fois cette question. J'ai arrêté de fumer il y a quelques années. Voilà, donc c'est un choix personnel que j'ai fait. J'ai beaucoup fumé dans ma vie. J'apprécie encore et toujours la cigarette ou le cigare, mais plutôt dans la bouche des autres. Voilà.
Et pourquoi vous avez arrêté de fumer ?
Oh, ben, je crois que c'est une décision qu'on prend à un moment donné dans sa vie. Pour des raisons X, Y, Z, je pourrais pratiquement plus m'en souvenir. Mais il est évident que, voilà, tout en ne fumant plus, on peut encore apprécier le secteur dans lequel nous travaillons. L'acte de fumer reste à mes yeux un plaisir qu'une personne se donne. Et je respecte ce plaisir. Voilà, moi j'ai décidé de passer à autre chose.
Est-ce qu'avec la directive anti-tabac, on rentre de plus en plus dans une société sans plaisir ?
Oh, vous savez, c'est tellement polémique que je ne veux pas rentrer trop dans ce débat. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une catégorie des gens, vous l'avez cité vous-même tout à l'heure, aux alentours des 20%, qui décident de fumer. Je crois qu'il est marqué en grand que l'acte de fumer peut nuire à la santé. Il y en a beaucoup d'autres. Mais donc, je laisse chacun juge, surtout les adultes, de faire ce qu'ils font avec la cigarette ou les produits du tabac.
Quel est l'impact direct de la directive européenne anti-tabac sur le business de l'entreprise d'Heinz van Landewijk ? Est-ce que vous avez chiffré cet impact ?
Mais écoutez, ça fait des années et des décennies que le monde du tabac, et les fabricants en particulier, sont sous pression de ce côté. Je crois que toute entreprise a dû se remettre en question au niveau de la production, au niveau des produits. Tout devient plus sévère. Donc on se réinvente, comme on dit, et bien entendu, ça a un impact. Alors une entreprise comme Heinz van Landewijk, aujourd'hui, nous avons, étant multinationale, nous cherchons naturellement d'autres marchés. Nous sommes présents dans plus de 40 marchés au niveau international. Donc nous sommes aussi ce qu'on appelle un joueur de niche. Nous n'avons pas cette masse qu'ont les tout grands. Et donc nous essayons de jouer sur les opportunités existantes dans les pays avoisinants, ou voire même d'autres continents, puisque nous sommes même à ce jour au Japon.
Donc, Heinz van Landewijk produit 50 millions de cigarettes par jour. C'est ce qu'on peut lire sur votre site internet. Vous avez un peu expliqué à qui vous vendez ce tabac. Quel est le rôle que joue la grande région, tout ce qui est le Benelux, l'Allemagne, la France, dans votre chiffre d'affaires ?
Il est évident que, tout d'abord, Heinz van Landewijk est une société bien implantée au Luxembourg, qui trouve son origine ici. Et donc, son premier marché domestique est bien le Luxembourg et ses consommateurs, qui fument naturellement les marques très connue locale, que je ne citerai pas.
Mais vous n'avez plus le droit.
Bien entendu. Mais nous avons bien sûr aussi historiquement autour du Luxembourg ce qu'on appelle cette zone de chalandise qui est notre force. Et je pense bien sûr à la Belgique, je pense à la Hollande, je pense à l'Allemagne, je pense à la France. Donc les pays qui nous avoisinent restent des pays phares. Mais néanmoins, nous sommes très présents en Espagne, nous sommes au Portugal. Donc voilà, nous ne nous arrêtons pas ou plus en tout cas à nos pays avoisinants aujourd'hui.
Le gouvernement luxembourgeois a une attitude ambiguë face à la cigarette et au tabac. tabac. Les recettes fiscales sur la vente du tabac rapportent gros. Ainsi, en 2016, les recettes issues des ventes du tabac sont estimées à 350 millions d'euros et celles du tabac a roulé à 165 millions d'euros. On sait que l'État gagne avec le tabac, mais qu'est-ce que Heinz van Landewijk gagne avec le tabac? Quel est votre chiffre d'affaires, votre bénéfice?
Alors, nous avons une tradition dans le groupe à ne pas communiquer sur les chiffres. Je peux vous dire que nous produisons 8 milliards de cigarettes, bien entendu. Nous faisons à peu près 10 000 tonnes de tabac. Donc ça, c'est exprimé en volume. Maintenant, en ce qui concerne les recettes fiscales, ben voilà, bon, tous les États, effectivement, tirent un certain bénéfice de ce produit. Et là aussi, je ne vais pas commenter. En ce qui nous concerne, voilà, nous ne communiquons pas sur nos chiffres financiers au niveau du groupe. C'est une volonté que je veux respecter.
Il y a 2 ans, Georges Krombach, directeur marketing de Heinz van Landewijk, ici à l'antenne, a dit que le groupe avait fait pour l'année 2014 un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, donc 90% d'accises. Vous m'avez expliqué que vous ne voulez pas communiquer le chiffre actuel, mais est-ce que ce chiffre est actuellement en hausse, il stagne, ou est-ce qu'il est en recul, pareillement pour le bénéfice?
Écoutez, comme chaque entreprise avec une raison économique, puisque nous avons bien sûr une raison économique, même si nous sommes dans les mains d'une très grande famille au Luxembourg, notre réseau économique nous oblige bien entendu à essayer de stagner un maximum dans un marché difficile. D'où nous allons à la recherche soit de nouveaux produits. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous nous réinventons aussi parfois. Bon, il y a pas mal d'évolutions dans le secteur du tabac vers d'autres produits et d'autres marchés. Donc notre objectif est bien entendu, si pas de croître, de rester au moins stable.
Ce qui n'est pas forcément une vision très positive de l'avenir. Donc le but, la stratégie est orientée par rapport à la volonté de ne pas perdre, mais de rester au moins où on est.
Ah, mais c'est déjà ambitieux, hein. Je crois que dans les produits de grande consommation en général, je crois que si aujourd'hui j'étais dans le secteur du sucre, je ne dirais pas non plus que j'ai de l'ambition de croître de 10% par an. Donc voilà, je crois que c'est une raison économique tout à fait valable.
Votre prédécesseur, Christian Greiwilding, a quitté le groupe d'une façon précipitée. Yann Van Den Eyck, vous êtes le nouveau directeur général du groupe Heinz van Landewijk. Les causes de cette séparation avec M. Greiwilding n'ont pas été communiquées. Pourquoi est-ce qu'il est parti?
Écoutez, je l'ai déjà dit à des confrères, à vous, je crois qu'il faut lui poser la question. Il est évident que je connais Christian et je l'apprécie depuis pas mal d'années. Christian a pris une décision n'étant plus en phase avec la stratégie ou avec les actionnaires. Et voilà, donc à un moment donné, il est temps de tourner la page. Et je crois que ça, c'est ce que Christian a décidé de faire.
Vous dites qu'il n'était plus en phase avec la stratégie du groupe. Si vous pouvez faire ce constat, vous devez aussi connaître les raisons ou les points où il n'est pas en phase. Où est-ce qu'il divergeait par rapport au groupe? Où est-ce que vous, comme nouveau directeur général, vous allez mettre d'autres accents?
Écoutez, je crois que si l'actionnariat m'a choisi pour succéder à Christian Greiwilding, c'est qu'ils ont trouvé certainement dans mon approche de l'intérêt. Et donc c'est ça qu'on va mettre en œuvre. Je crois qu'à côté de ça, nous restons des commerciaux, nous restons des entrepreneurs, nous restons surtout des managers très responsables, tant vis-à-vis des produits des consommateurs, mais aussi vis-à-vis du personnel entier, que ce soit pour les sites au Luxembourg ou dans les pays avoisinants, puisque comme vous savez, nous sommes également présents en Allemagne et en Hongrie. Et voilà, donc comme chaque directeur général ou manager dans une entreprise, nous proposons des plans aux actionnaires qui sont soit d'un an, voire 3 ans. Et il faut croire que ces plans ont plu, bien sûr, à nos actionnaires.
Selon le Luxembourg Avort et la presse luxembourgeoise, il y a eu des divergences avec votre prédécesseur concernant justement l'avenir des salariés. Est-ce que dans l'avenir, vous avez parlé d'un plan de 1 à 3 ans, il a été prévu de restructurer au niveau du groupe, aussi avec cette nouvelle usine qui est en train d'être construite à Friedhaf, est-ce que des employés vont perdre leur emploi au sein du groupe?
Mais écoutez, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on ne communiquait pas sur les chiffres, mais je vais quand même vous en donner un. Aujourd'hui, le groupe familial a décidé d'investir plus de 60 millions d'euros dans une nouvelle usine ici au Luxembourg. Alors je crois que, est-ce qu'on peut donner en tant qu'actionnaire originaire luxembourgeois et bien investi dans ce pays, est-ce qu'on peut donner un meilleur exemple comme quoi on veut protéger l'emploi et donner un avenir à beaucoup de ménages ici au Luxembourg? Je crois que non. Donc voilà, c'est le plus bel exemple et je crois... crois que nous sommes très fiers de cette construction dont nous avons d'ailleurs posé la première pierre hier en fin d'après-midi.
Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour le personnel du groupe ?
Mais écoutez, aujourd'hui, nous avons deux unités, une à Etelbruck et une à Ulrich. Il est évident que nous allons fusionner ces deux unités en une seule unité qui est naturellement, comme on dit en anglais, state of the art. Donc, il y a toutes les nouvelles technologies. Il y a, bien entendu, nous avons cette chance, et aussi pour notre personnel, que nous avons une ancienneté très importante dans l'entreprise. C'est souvent le cas, d'ailleurs, dans l'industrie du tabac. Les gens sont très fidèles. Je crois le sont encore plus au Luxembourg, de par les origines et de par l'histoire. Et aujourd'hui, donc, nous allons combiner au mieux, je dirais, les départs à la retraite avec cette nouvelle usine qui, comme vous le savez, est planifiée pour début d'année 2019.
Combien de personnes travaillent actuellement au Luxembourg ?
Alors, au Luxembourg, nous avons différentes activités. Nous avons l'activité, bien sûr, purement tabac, fabrication, commercialisation, Ulrich Etelbruck. Nous avons aussi une succursale qui s'occupe de la grossisterie, hein, donc qui livre essentiellement les pétroliers ici au Luxembourg, avec des produits tantôt alimentaires et tantôt tabac. L'ensemble des personnes au Luxembourg avoisine les 800 personnes.
Et 800 personnes.
Qui sont employées au Luxembourg par le groupe.
Et personne de ces 800 personnes ne sera licencié ?
Ah, écoutez, ça, on peut jamais prédire ce genre de choses. Je crois que tout est mis en œuvre aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pour que cette nouvelle usine puisse fonctionner avec à la fois la nouvelle technologie et à la fois, naturellement, toutes les personnes nécessaires et entraînées sur ces machines. Et donc, je sais aujourd'hui que les plans qui sont dans nos tiroirs sont des plus constructifs. Et comme je vous l'ai dit, si nous parlons de départ, en tout cas, prioritairement, nous aurons bien sûr des personnes qui partent à la retraite.
Prioritairement. Donc, parmi ces plans que vous avez dans vos tiroirs, il n'y a pas des plans sociaux ?
Alors, c'est quoi un plan social ? Un plan social, nous devons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous réinventer régulièrement parce que nous sommes quand même contraints de le faire. Nous sommes également très actifs d'un point de vue commercial pour aller à l'exportation, pour aller chercher les volumes là où ils sont. Donc, un plan, il y a surtout un plan d'optimisation.
Donc, on n'exclut pas qu'à l'avenir prochain, il y aurait éventuellement des licenciements à part les retraites au sein du groupe.
J'ai pas une boule de cristal.
Ce gouvernement a lancé une réforme fiscale dont ont surtout profité les ménages. A été promis une baisse progressive de l'impôt sur les sociétés. Qu'en pensez-vous ?
Mais écoutez, en tant que directeur d'une entreprise, toutes les baisses d'impôts sont toujours les bienvenues.
Mais vous aurez peut-être espéré un peu plus.
On espère toujours plus, mais je crois que ce qui est important, c'est déjà un pas dans la bonne direction.
Yann Van Den Neuk, que vous avez expliqué que Heinz Van Annewijk est une société multinationale, même si c'est une petite multinationale. Les grandes sociétés multinationales profitent au Luxembourg de ce qu'on appelle des accords anticipés, surtout dans le passé. Les mécanismes de ces accords ont été largement révélés par le procès LuxLeaks. Est-ce qu'une entreprise comme Heinz Van Annewijk profite de ce genre d'arrangement fiscal avec l'administration fiscale, avec l'administration des impôts ?
Alors, je crois que ce qui est important de noter, c'est que Heinz Van Annewijk a trouvé son origine ici au Luxembourg, donc n'est pas une société importée au Luxembourg. Nous sommes bien implantés, et ça depuis plus de 170 ans. Voilà, je ne vais pas commenter non plus les avantages fiscaux que peuvent avoir d'autres entreprises. Nous sommes très heureux d'être luxembourgeois à la base, nous respectons bien sûr tous les accords que nous pouvons obtenir dans ce pays.
Donc, vous ne profitez pas de taux d'imposition bas comme éventuellement des grandes sociétés américaines dont les taux d'imposition ont été révélés dans ce procès.
Si nous profitons de certains éléments, c'est dans la légalité.
Dans la légalité, toujours dans la légalité. Le ministre du Travail, Nicolas Schmitt, a annoncé hier vouloir réformer le Fonds pour l'emploi, dont sont payées les indemnités chômage, afin de financer 30 à 50% des formations dans le domaine de la digitalisation. Le but est de soutenir financièrement les entreprises. Qu'en pensez-vous ?
Mais écoutez, mon passé très récent m'a amené à être en contact avec la digitalisation, notamment quand on parlait de l'e-commerce, qui est un très bel exemple. Donc je ne peux qu'applaudir ce genre d'initiative. Je crois que nous sommes qu'au début de la digitalisation. Donc aider les entreprises et son personnel à se développer dans cette ère-là est simplement une très bonne mesure.
Est-ce que ce ne serait pas le rôle des écoles de faire ce type de travail, de former les jeunes à la modernité ?
Mais il ne faut pas l'exclure. Naturellement, on sait qu'une réforme au niveau de l'école prend toujours plus de temps. C'est aussi une question d'argent et de subsides. Donc je crois qu'ici, il faut applaudir une initiative qui se fait dans le marché de l'emploi où à la fois employeurs et État peuvent déjà faire un grand effort ensemble.
Dit Jan van den Neuker, et je vous remercie pour cet entretien.
C'est moi.
An den Generaldirektor vom Grupp Heinz van Landeweg, de Jan van den Neuker, heieren am Gespräch mit Mick Entringer. Nogleich, schwätz mal über deng Ausstellung um Wandhaff.